pas d'affolement. Nous voilà.
Bonjour, nous sommes sur Radio Entre deux Mers, dans l'émission Pas d'affolement, nous voilà, sur 98.4 FM, 60e émission. Je passe la parole à Houssine.
Nous sommes en présence de Valérie, Jean-Louis, Philippe, Béatrice, Christelle, Francis à la technique et moi-même Houssine.
Ils ont également participé à l'émission. Christophe, Brigitte, Josiane, Pierre, Laurent, Guylain, Azédine, Sylvie, Nathalie, Marine, Joseph, Stan et Michael. Et nous vous présentons notre invité, Nicolas Géogel. Bonjour Nicolas, on peut vous appeler Nicolas ?
Il n'y a pas de souci.
Alors la première question est simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré pour devenir pompier ?
Pas particulièrement, à part mes oncles qui étaient gendarmes. Mais sinon, j'ai attaqué les pompiers grâce à un film américain.
Très bien. Houssine.
Quel parcours faut-il suivre pour être pompier professionnel ?
Alors, pour être pompier professionnel, on est fonctionnaire territorial. Donc, il faut passer un concours national avec du sport, de l'écrit et une partie orale. Et dès qu'on a réussi le concours, après, on est embauché dans un département.
Y a-t-il différents corps de métiers chez les pompiers ?
Alors, chez les pompiers en France, vous avez les pompiers militaires qui sont à Paris et à Marseille. Les pompiers français, ils se décomposent avec les pompiers professionnels, fonctionnaires territoriaux et les pompiers volontaires.
Dans la marine à Marseille, je crois.
Marine, Marseille et les pompiers de Paris, le génie.
Alors, est-ce que les pompiers sont habilités à être médiateurs dans une situation et à faire en fait de la prévention ?
Ben on est médiateur, étant donné qu'on n'a pas de policiers et de gendarmes lors de nos interventions, c'est très, très oui. compliqué de les avoir en première intervention. Donc on est obligé de faire un peu les médiateurs lors des interventions un peu techniques et à risque.
Aussi.
Quelle est être l'évolution du métier de pompier ?
Alors, quelle est l'évolution du métier des pompiers ? L'évolution au niveau historique, on est parti avec les pompes à bras. Et avec les pompes à vapeur. Et ensuite, on est arrivé avec les véhicules électriques et les véhicules à essence.
À la fin d'une journée de travail, que ressentez-vous ?
Ah.
Un peu de fatigue.
Un peu de fatigue. Comme, oui, avec 12 heures de garde de fatigue ou 12 heures de garde de nuit. Oui. Mais après, que du bonheur. Hein, parce que bon, normalement, on devrait avoir sauvé des gens. Donc, oui, c'est du bonheur.
Oui, c'est l'essentiel.
C'est le but.
Alors, quelle expérience, merci Sylviane, quelle expérience vous avez le plus marqué durant votre carrière ?
Moi, j'arrive de Marseille, donc nous, c'est les expériences sur les feux de forêt, donc le plus important.
Et pas une en particulier, peut-être pas, une qui vous a... Non,
non, à part le feu de forêt, les feux de forêt où j'ai brûlé en 2005, et ça, c'est déjà mal. Hein.
On s'en souvient, oui.
On s'en souvient en général.
Et Sylviane ?
Qui fabrique les calendriers de pompiers ? Que deviennent l'argent des ventes de ces calendriers ? Faire lien avec période de fin d'année.
Oui, alors, Sylviane, les calendriers où on est tout nu ou pas ?
N'importe.
C'est tombé sur vous.
N'importe.
Ah, bah oui, mais.
C'est celui-là qui nous intéresse.
Ah, ben hein. Voilà, hein, c'est Sylviane.
Bah, c'est Sylviane, du moins, pas moi.
C'est Sylviane qui a demandé. Hein,
les deux, bon. Les deux.
Donc, les calendriers, chaque année, on passe les étrennes, donc c'est des offres au niveau de la population. Et chaque année, donc, une société fabrique nos calendriers avec nos photos d'intervention. Et donc, les étrennes qui nous reviennent permettent à la vie de la caserne, au niveau de l'amicale, de faire les sapins de Noël pour les enfants, les repas le week-end, et puis pour des offres un peu des monuments aux morts, tout ça, des petites animations qui se trouvent à l'année, en fait.
Et vous faites du foot chez les pompiers, non?
De toute façon, le sport est
au niveau. Oui, je m'en doute, vous faites du sport, ça. Mais il y a une équipe de foot.
Il y a des équipes de rugby, il y a des équipes de foot, de golf, il y a plein de ouais. D'équipes un peu départementales. Et puis après, au niveau de la garde, on fait le sport collectif. Ouais.
Très bien, merci Nicolas de votre gentillesse.
Merci. D'abord.
Et alors, Sylviane.
Nous allons écouter Guilin qui nous parle de l'activité de pêche.
Activité pêche. Monsieur Collet-Sébastien, un aide-soignant des unités Pinel et Broca, a médité et a mis en place un projet autour de la pêche, avec entre autres patients, novices et expérimentés. Ce projet a vu le jour après avoir été mûrement réfléchi. Il a fait profiter de son savoir. D'ailleurs, quelques poissons ont été sortis de l'eau, photographiés et remis à l'eau. Toutes les étapes ont été respectées avec du matériel professionnel. 3 sorties pêche ont été réalisées depuis. La première dans un lac de la région, à Beau-Tiran en Gironde. La deuxième à l'océan, au niveau de la dune du Pilat. Et enfin une troisième réitérée à Beau-Tiran une fois de plus dans le même lac. Toutes les conditions nécessaires étaient réunies, c'est-à-dire des autorisations pour pouvoir pêcher, la météo, le matériel, un transport en minibus, l'alimentation, les traitements pour les patients conviés. 2 soignants ont été dépêchés à 2 reprises, sauf la troisième fois. Seul Sébastien Collet a assuré le transport et l'accompagnement. 4 patients au maximum pouvaient participer. Le bienfait d'une sensation de bien-être a fait l'unanimité et a été ressenti par tous les participants, ainsi qu'une bonne fatigue. La direction du CHS de Cadillac devrait mettre en avant ce genre de manifestation et les encourager à l'avenir.
Chers auditeurs, bonjour. Ce mois-ci, je vous présente la recette de la tarte aux poires. Pour 8 personnes, il vous faut 300 g de pâte brisée, 4 grosses poires, 2 œufs, une cuillère à soupe de maïzena, 200 centilitres de crème fraîche, 100 g de sucre en poudre, 50 g d'amandes en poudre, sucre glace pour décorer, beurre pour le moule. Étalez la pâte que décongelez au rouleau sur un plan de travail fariné et tapissez un moule à tarte préalablement beurré. Pelez les poires, coupez-les en deux et pépinez-les. Posez les côtés plats sur le fond de pâte. Cassez les œufs dans un saladier et ajoutez de la maïzena, des yeux dans une cuillère à soupe d'eau, ainsi que la crème fraîche, le sucre en poudre, les amandes et l'alcool de poire. Fouettez le tout. Versez cette préparation dans le moule à tarte entre les poires en la répartissant également. Faites cuire à four chaud, 230 degrés centigrades, pendant 30 à 35 minutes. La crème doit être dorée et ferme et le bord de la pâte doré. Saupoudrez de sucre glace dès la sortie du four. Servez tiède ou froid. Je vous souhaite une bonne dégustation et de joyeuses fêtes à tous. À l'année prochaine.
Moi, ça m'a mis en appétit. Alors, après...
Avant, Philippe, je crois que tu as une...
Oui, toute, une question une... que j'ai omis de
subsidiaire.
Subsidiaire, oui. Vous pouvez nous parler de la planche. C'est un exercice qui est obligatoire, je crois.
Bon, qui est obligatoire chez les pompiers de Paris et à Marseille. Nous, on n'a pas trop le temps de le faire, mais c'était obligatoire. Une planche qui est à 1,80 m du sol. Et on avait pour mission de monter la planche en traction pour éviter de garder, ça permettait de garder la situation si un plancher s'effondrait.
Voilà. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est...
Ouais, ah bah, le métier, mais les sapeurs-pompiers n'est pas donné à tout le monde.
Tout à fait, j'ai confié. Moi, je faisais, mais que j'étais jeune. Et alors, après le goût, l'odorat, merci Nicolas.
Merci.
Sylviane.
Alors, notre ami Pierre a une amie qui s'appelle Alice. Aline, pardon.
Non. On va écouter plutôt.
Ah oui, oui.
On va écouter l'ORL.
Oui. C'est toi qui me fais tourner.
Bonjour, c'est Pierre. Sur Radio Entre deux Mers, bien sûr, il y a le Covid, bien sûr, il y a les matchs de foot, bientôt nous parlerons de l'Anthropocène, tout ça et le pouvoir d'achat. Mais il y a aussi les métiers que peuvent faire nos petits enfants et nos enfants. Donc, je vais vous parler de l'ORL, otorhinolaryngologie. Oto veut dire oreille, rhino veut dire nez, laryngo veut dire gorge, et logis veut dire science. L'otorhinolaryngologie est une spécialité médico-chirurgicale dont la naissance officielle remonte à la toute fin du 19e siècle. Comme son nom l'indique, cette spécialité concerne les maladies des oreilles, du nez et du cou. Au début, s'il s'agissait de soigner essentiellement les infections touchant cette sphère, également les dégâts occasionnés par des traumatismes, la découverte des antibiotiques et leurs progrès ont modifié l'image de cette spécialité. D'autre part, les gestes techniques et également les progrès de l'anesthésie ont transformé l'ORL. Jusqu'au milieu du XXe siècle, aux frontières du réel, les gestes médicaux étaient surtout à visée anti-infectieuse. Évacuation d'abcès, ablation des amygdales lorsqu'elles étaient infectées ou curage de la mastoïde, c'est-à-dire dans la région auriculaire, dans l'oreille. Aïe, oui, aïe, ça fait très mal. Ces gestes sont raréfiés à partir des années 60-70 car les antibiotiques et l'avènement des corticoïdes pour combattre l'inflammation sont devenus de plus en plus efficaces. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Actuellement, l'ORL, qui est une spécialité toujours médico-chirurgicale, devient surtout fonctionnelle. C'est-à-dire que la fonction, l'audition, la voix, la respiration nasale, le goût, l'odorat est préservée et restaurée au mieux. Ma grand-mère, en 1963, a été opérée d'une osopongeuse. J'entends pas. C'est-à-dire que les osselets dans l'oreille s'étaient soudés. Les osselets se composent d'un marteau, d'une enclume et d'un étrier. Forgeron, as-tu fini mon épée ? Mon cheval s'impatiente. Dans ce cas, l'ostéopongeuse, l'étrier se soude au bord de la fenêtre. Cela gêne la transmission des sons à l'oreille interne. Comment ? Ce qui explique la surdité ressentie par les patients. Par ailleurs, certains patients peuvent avoir une gêne pour respirer par le nez. Les causes sont très diverses. Il peut exister une déviation de la cloison nasale ou bien la formation de polypes bénins dans le nez. Cela débouche parfois sur un acte chirurgical pour rétablir la ventilation nasale. Il peut également exister des tumeurs cancéreuses, pimpon, qui doivent être opérées, suivies ou non de radiothérapie. Certains ORL, se sont spécialisés dans l'allergologie pour désensibiliser les patients atteints entre autres de rhinite allergique. Les troubles de l'oreille interne peuvent entraîner une surdité de réception et éventuellement des troubles de l'équilibre. Ces quelques propos ont été écrits avec l'aide de mon père, ancien ORL libéral. Je remercie.
Notre ami Pierre a une amie qui s'appelle Aline, qui interprète « Je », une chanson de Jean-Jacques Goldman, Magneto Francis.
Que de l'amour, pas que ça.
Nous sommes de retour dans les studios de Radio Entre-deux-Mers pour l'émission Pas d'informant, nous voilà, en compagnie de Nicolas Coaguel. Bonjour, rebonjour Nicolas.
Et rebonjour.
Alors nous allons repasser une nouvelle session de questions. Et la première, c'est: pouvez-vous nous décrire votre musée? Vous avez un musée aussi.
J'ai monté un musée qui n'est plus musée, qui est conservatoire. Ça évite tout problème administratif. J'ai ouvert depuis le 15 juin.
Donc, tout neuf.
Tout neuf. Et j'ai travaillé depuis 3 ans dessus, sur ce projet, depuis que j'ai le local.
Ah bien, une question justement de Jean-Louis sur le musée.
Depuis quand avez-vous ouvert votre musée ?
Alors, oui, le musée est ouvert officiellement depuis le 15 juin. Et donc, 3 ans de travail et 25 ans de recherche pour trouver un local. Donc, ça fait 25 ans que je cherchais un mécène ou une commune et j'ai trouvé un mécène. Voilà.
Comment est venue cette passion de collectionner les pièces de métier de pompier ?
Alors, moi, j'étais pompier à New York en 1994. Donc, depuis New York, quand je suis rentré, on m'a offert une tenue. Et malheureusement, on m'a offert un casque et la tenue complète, et ça a pris un peu plus de place. Et donc, à ce jour, j'ai un peu plus de 1000 m² de casque et de tenue.
C'est ça qui vous a donné l'idée du musée, alors ?
Et c'est ça qui m'a donné l'idée du musée.
Alors, et c'est quand que vous avez commencé votre collection ? Alors, oui,
depuis que j'ai attaqué les pompiers.
Tout de suite.
Depuis 25 ans.
D'accord.
Donc, depuis 25 ans, je collectionne.
Quel a été le moment le plus difficile pour créer le musée ?
Alors, le plus difficile, c'est toujours pareil. Hein. Des gens qui vous promettent monts et merveilles. Et le souci, c'est de trouver aussi des pièces un peu particulières. Toujours ces recherches de matériel. Et après, grâce à l'aide de certains collègues, certains amis et même la famille, on arrive un peu à surmonter ces problèmes.
Recevez-vous des subventions pour faire fonctionner votre musée ?
Non. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de subvention officielle. Je garde des subventions techniques, donc c'est des dons, de sociétés, étant donné que je cherchais en priorité du matériel pour pouvoir faire avancer la construction du musée. En fait.
Et c'est combien l'entrée, si je veux y aller ?
Là, on est à 5 euros l'entrée pour 2 heures de visite.
C'est intéressant.
Alors pour vous, ça sera 8 euros.
Ah, c'est moins intéressant.
Voilà.
Tout à fait. Mais merci, Nicolas. Toujours de l'humour.
Merci.
Moi, j'ai de l'humour aussi parce que j'ai des petits poèmes que je vous ai concoctés. Poèmes de ma plume. Il faut que je les trouve. Voilà.
Est-ce que tu les fais éditer, ces poèmes ?
Pour l'instant, pas tellement. Mais le premier, justement, c'est l'hiver, parce que c'est un propos. L'hiver, on y est. Voilà, c'est maintenant l'hiver qui va de pair avec la saison excessive, l'été qui bientôt arrive. C'est maintenant l'hiver qui marque une fin, mais aussi un trop-plein de froid et de misère. À qui c'est certain, c'est qu'il y a la guerre. C'est maintenant l'hiver qui est le début ou certains errent sans but. C'est maintenant l'hiver qui coûte cher en chauffage et autres combustibles et qui est la cible de tous les amoureux de Noël et ses enfants heureux. C'est enfin l'hiver. Alors j'en ai un deuxième poème, justement j'ai écrit il n'y a pas longtemps, sur le partage. L'important dans la vie, c'est le partage. Accessible pour tous à tout âge. Quand on vit sous le même toit, ce ne doit pas être chacun pour soi. Le partage est une valeur recherchée pour ceux qui comprennent le sens caché de la vie de ses hauts et de ses bas. Être collectif n'est pas seulement nécessaire pour les autres, il apporte pour soi-même d'autres raisons d'être heureux par la satisfaction d'estime de soi. Alors en un mot, partageons. Voilà. Alors justement...
Il n'y en a pas un troisième, non?
Si vous voulez.
Non, ça nous coûterait trop cher.
Ça coûte trop cher la radio.
Voilà. et quand on parle en face du micro, alors...
Ça coûte encore plus cher.
Tu le...
Oui,
voilà,
merci.
Voilà, c'est mieux.
Vous m'avez entendu quand même?
Oui, c'est bon.
Jean-Louis.
Nous avons eu un débat au sujet de la troisième dose de vaccin contre le Covid. Nous allons l'écouter.
Le sujet qui taraude à l'heure actuelle, c'est la troisième dose. Alors, qui veut en parler un petit peu de cette troisième dose?
Oui, je voulais dire, la troisième dose, je l'ai eue, moi. J'ai été vacciné. Je pense que c'est le seul moyen qu'il y a pour combattre le coronavirus. Et malheureusement, je crois qu'il faut s'attendre à une quatrième aussi, par rapport aux variants d'Afrique du Sud.
Moi, j'ai déjà eu ma troisième dose, donc je suis vacciné. J'espère qu'il n'y aura pas une quatrième.
Oui, moi, je n'ai pas fait encore ma troisième dose. J'ai pas eu le temps. Je vais à mon médecin bientôt, je vais la faire. Et moi, je suis pour à 100%. Voilà, c'est comme la turbine, comme la rougeole et d'autres, la polio, il faut l'éradiquer, ce corona.
Moi, je tiens à dire que... Il y a peut-être d'autres possibilités que le vaccin. Donc tous ces débats qui sont manipulés par les médias et puis autres pharmaceutiques et tout ça, ça ne m'intéresse pas parce que moi je subis plus que je ne n'agis. Voilà.
Moi je trouve que c'est bien de faire une troisième dose. Comme ça, on aura tout ce qu'on veut. On peut rentrer dans les hôtels, dans les bars, c'est ça, parce que maintenant, avec, comment ça s'appelle, papier sanitaire, il est valable jusqu'à mois de janvier.
Oui, moi je suis pour. Je vais avoir ma troisième dose, là, lundi, et puis je me moque un peu des pharmacies qui font des sous, tout ça. Moi, je veux vivre, donc voilà. Non, je suis pour la vaccination.
Oui, moi aussi, j'ai eu ma troisième dose et je pars dans le principe que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, voilà. Je suis confiant, ses yeux fermés, on va dire, mais j'ai un peu confiance quand même.
Voilà, le Covid repart de plus en plus belle et donc on est obligé de faire la troisième dose. J'espère qu'un jour, ça s'arrêtera. Merci.
Mais moi, j'ai une question pour Nicolas. Nicolas, justement, au sujet du Covid, comment ça se passe au niveau des... Les pompiers, ça a dû vous stresser, ça vous stresse encore?
Il n'y a pas besoin du Covid pour nous stresser. Par contre, on continue à en faire énormément, ça y est, c'est reparti. Le problème, c'est tous ces clients qui ne sont pas vaccinés et qui continuent à avoir une vie normale. Et voilà.
Donc, et qui encombrent
les services d'urgence et
les hôpitaux.
Et les hôpitaux.
Avec les reports d'opération.
Tout à fait.
Je suis bien placé pour le savoir.
Donc, et oui, Francis.
Eh oui, j'ai qu'un œil.
Oui, bon pied, bon œil quand même.
Voilà. Et le deuxième œil, eh bien, on ne sait pas quand est-ce qu'il se fera.
Peut-être en avril, si c'est pas un poisson.
Eh bien oui. Allez, Sylviane.
Nous allons écouter la discussion que nous avons eue la semaine dernière autour de nos goûts sur les programmes TV.
Le sujet qui taraude à l'heure actuelle, c'est la troisième dose. Alors, qui...
Bonjour, qu'est-ce que vous aimez à regarder à la télé?
Moi, sans condition, je regarde tous les soirs, tous les jours de la semaine, à longueur d'année, je regarde les infos sur TF1.
Ben moi, j'aime bien regarder les infos, beaucoup, mais aussi l'émission C'est dans l'air. Beaucoup.
Moi, j'aime beaucoup regarder CNews et BFM TV aussi.
Moi, j'aime bien regarder BFM TV aussi.
Moi, j'aime regarder le sport et les actualités pour savoir ce qui se passe dans le monde.
En deuxième, je regarde ma famille d'abord. Ça me fait marrer.
Ouais, c'est d'ailleurs.
Moi, je regarde les informations et je regarde l'agence touriste sur la 41.
Ça nous rajeunit, ça, l'agence touriste. Philippe.
Avec ma copine, on aime regarder les mystères de l'amour.
Moi, j'ai regardé les mystères de l'Ouest.
J'aime bien regarder TPMP, tu peux me poste sur la Luna.
Ah. Ensuite, Brigitte.
Moi, j'aime bien regarder les films à la télé.
Moi, j'aime bien regarder les émissions sur la nature.
D'accord, très bien.
En troisième, c'est pas donné à tout le monde, mais si vous pouvez aller sur Netflix, vous avez de bonnes propositions de films.
Eh bien, moi, j'écoute souvent les informations et je regarde les films le soir.
Mais moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez un message à passer pour Noël?
Que ce soit magique pour tout le monde.
Noël, pour moi, il faut qu'on passe tous ensemble avec la famille, des amis et tout.
Ouais, joyeux Noël à tous et j'espère que j'aurai des bons cadeaux.
Soyez prudents.
Joyeux Noël et bonne année.
Joyeux Noël, meilleurs vœux.
Joyeux Noël, meilleurs vœux.
Joyeux Noël, faites-vous plaisir sans excès.
Joyeux Noël et 2 mètres de distance à cause du Covid.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël. Mais joyeux Noël à tous et puis à 2022 pour de nouvelles émissions.
Joyeux Noël et bonne année.
Merci à vous tous et merci joyeux à Noël.
Tous. Merci à vous tous, bonne année.
Oui, joyeux Noël.
C'était là aussi.
Eh bien, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde et une bonne année et faites attention à l'alcool.
C'est dangereux pour la santé.
Et vous, Nicolas, est-ce que vous avez le temps de regarder un peu la télé?
Non, j'ai pas
non,
le temps.
Non, bah, comme ça, c'est réglé.
C'est réglé.
Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Une présentation de Soprano en feu, proposée par Azedine, de Soprano en feu.
C'est pas Soprano qui est en feu, hein.
Ben, je sais pas.
C'est le titre de
je lis ce qu'il y a écrit.
C'est le titre de la chanson.
Oui, non, mais vous avez compris. Oui, merci.
Non, mais il faudra rectifier à l'avenir. Je passe parce que c'est la dernière de l'année.
C'est Noël.
Allez, je vous mets le feu, là.
Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand dégât de vandale. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles,
Je pense que s'il t'appelle, tu y vas, Nicolas.
Oui, oui.
C'est un Marseillais, soprano.
C'est un peu, c'est Marseillais, donc c'est bon.
Il n'y a pas de souci.
Le groupe radio a témoigné de ses souvenirs sur les marchés de Noël. Écoutons-les.
On parle de marché de Noël, moi, ça me fait directement penser à trois choses. Churros, crêpes, pommes d'amour.
Alors moi, je suis pas d'accord parce que ça vient du Nord et c'est flamencuche et vin chaud.
Noël, c'est
chaud.
Universel.
Avec modération, Pierre.
Avec modération, pardon.
Et c'est du Nord, ça?
C'est montagnard et alsacien. Ouais.
Moi, j'adore les marchés de Noël car on fait ripaille.
Moi, j'ai un marché de Noël parce que peut-être qu'en 2021, avant 2022, je vais avoir peut-être FIFA 22 sur PS4 et que j'ai acheté tout ça avec mes sous.
Faites place dans vos estomacs.
Moi, le marché de Noël, là, je veux avoir tout le monde heureux. Et tout le monde soit beaucoup de bonheur et beaucoup de gens jouent à Noël.
Belles intentions.
J'ai fait le marché de Noël avec le GEM de Langon. Le soir, nous sommes allés manger au restaurant. C'était superbe.
Alors, qui c'est qui a fait encore des marchés de Noël? Valérie?
Moi, ce que j'aime dans les marchés de Noël, c'est que ce sont des sortes de petits salons où il y a beaucoup d'objets artisanaux qu'on ne trouve pas d'habitude à ce moment-là.
Des produits dérivés. L'artiste qui parle, là.
Non.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix dans les stands et c'est très intéressant pour faire des petits cadeaux pour sa famille.
Et à Capsieux, il n'y a pas de marché de Noël, Joseph?
Non, il n'y en a pas.
Alors qu'est-ce qu'il fait le président anglais, là, le président du département?
Il a fait mettre les sapins.
D'accord. Et les petits puits d'amour, ça y est, ils ont quitté Capsieux?
Non,
ça a été racheté.
Oui.
Moi, j'aime Noël parce qu'on peut acheter beaucoup de choses.
Moi, j'aime bien les marchés de Noël quand on peut tirer la barbe du Père Noël.
Oui, surtout qu'il est embauché en intérim.
Eh bien, merci beaucoup.
Il vous propose d'écouter Ça m'énerve version pompier.
C'est bien.
J'ai oublié une question.
Monsieur Nicolas, est-ce que vous aimez la musique ?
Oui, oui, oui.
Nous avons un petit problème technique.
Ben, c'est pas grave. Nous sommes donc de retour sur le Radio Entre-deux-Mers, sur l'émission Pas d'informant, nous voilà, en compagnie de Nicolas. Et alors, on posera les questions à la fin, Nicolas. Et pour l'instant, on va passer au sport. Vous aimez le sport, Nicolas ? Ben, je vous en faire goûter du sport avec la chronique sportive de l'année 92. Doucement. Chronique de l'année sportive 1992. Côté actualité, signature du traité de Maastricht, certifié par référendum. Entrée en vigueur du permis à points. Enfin, la mort de Michel Berger à l'âge de 44 ans. Côté sportif, en football, le Danemark, à la surprise générale, gagne la Coupe d'Europe des Nations. En athlétisme, aux Jeux Olympiques de Barcelone, Marie-Jo Pérec s'impose dans le 400 mètres. En cyclisme, à 38 ans, Gilbert Duclos-Lassalle gagne le Paris-Roubaix. En tennis, à Wimbledon, André Agassi s'impose face au Croate Goran Ivanišević. En sport automobile, au volant d'une Williams Renault, Nigel Mansell s'adjuge le titre mondial. Enfin, cette année voit la naissance du footballeur Neymar. Je n'en dirai pas plus.
Voilà, je donne la résultat à la Coupe d'Europe.
Attendez, Lucine, il y a Jean-Louis d'abord. Jean-Louis qui va nous parler du circuit d'Arbis.
Oui. L'histoire du MCVR, motoclub de la vallée du Roc, commence en 1930 à Arbis, avec trois amis qui tournent sur un champ avec des motos de route qui transforment en motos de cross. Après, ils envahissent la vallée du Roc avec la permission du propriétaire qui était le maire de la commune. Ils tracent un circuit et les gens commencent à l'utiliser. Mais tous ces pilotes roulent sans licence. Le premier à en prendre une est Michel Pays. Il organise des courses. Michel a l'idée de faire venir des pilotes internationaux comme des Allemands, des Belges et des Anglais. Il équipe le circuit d'un arrosage intégral. C'est le premier circuit en France à être équipé comme cela. Puis ils font venir les 6 de Carcross, puis les 80 cm3. C'est un circuit important dans la région, car il a accueilli à son apogée 15 000 spectateurs. Dans les années 80, il y avait le spectacle, mais les gens n'étaient pas au rendez-vous, car ils trouvaient que c'était trop petit, et le motoclub mangea la grenouille. Le circuit fut fermé plusieurs années et tomba en abandon, jusqu'à ce qu'une bande de passionnés, dont je faisais partie, arrive sur du circuit de Frontenac dans lequel il fut expulsé suite à une histoire de famille. Repris le circuit, après 2 ans de travaux, à refaire les clôtures, les buttes avec des pelles mécaniques, la buvette et l'arrosage avec l'ancienne pompe qu'on a réussi à remettre en route, on a pu ouvrir le circuit avec des licences FSM. Le premier week-end d'entraînement a eu lieu le samedi et le dimanche. 200 pilotes venaient de toute la région. Après, on a organisé des courses et même des courses de 6 de Carcross en championnat de France. J'ai même trouvé des sponsors pour le motoclub avec le don d'une moto que l'on a mis à gagner pour une tombola. On a même installé des bungalows avec des douches, des toilettes. Le motoclub existe toujours, je lui souhaite longue vie. J'avais moi aussi une licence de course.
C'est un bon souvenir ça, Jean-Louis.
Oui, très bon.
Oui, ça sent.
Voilà,
signe maintenant.
Voilà, maintenant je donne le résultat des challenges à cube. Manchester a battu 4, 19 à 13. Racing, pas joué, mais a battu Obstérié 28 à 0. Lyon a battu Dragon 40 à 28. Toulon a battu Zèbre 28 à 14. Les matchs rapportés. UBB, Scaratikel, Waib, Tosatouza, Mopili, Leicester, Basse,
La Rochelle, salle Clermont. Voilà pour le rugby.
Attends, pour le rugby, tu as dit tout à l'heure ils n'ont pas joué, mais ils ont gagné 28-0. Ouais. Alors il faudrait peut-être expliquer pourquoi 28-0.
Parce que c'est quand le forfait.
Oui, alors donc il y a le forfait plus le point de bonus.
Voilà.
Donc ça fait 28-0.
28-0, ouais.
Et quand on fait du rugby, mon cher aussi, qu'on est journaliste comme toi, et qu'on a passé sa vie sous la mêlée, et on fait attention. Ouais. Il faut que l'auditeur, il le sache. Le sache chercher, comment on dit?
Comment sort sachant chercher et sachant chercher?
Est-ce que vous savez chercher?
Ben oui, je cherche un débat.
Eh bien, écoute, je te le propose, c'est Amir qui nous chante « J'ai cherché ».
Mais voilà. Non, il y a un petit débat avant.
On va écouter,
Amir, d'abord.
On va écouter Amir.
D'accord.
Allez.
You J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes lacs, qui dans mes
danse dans les studios, ben nous on va faire tout autre chose avec un petit débat intéressant sur Dimitri Payet et son agression. On va l'écouter, ce débat.
Il y a quelques jours, il y a eu un petit incident sur un match de football professionnel entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Effectivement, il y a un spectateur qui a lancé une bouteille d'eau sur la tête d'un joueur de Marseille. Alors j'aimerais savoir... parmi vous, qui c'est qui a envie de réagir à ce sujet? Laurent?
En fait, je trouve ça inadmissible. Il faudrait qu'il y ait une amende au moins de 1500 euros.
Ben, oui. Et ben, moi, c'est l'opposé. Je n'aurais rien donné. Parce que c'est la première fois qu'il faisait cette chose. Et puis, bon, c'est qu'une bouteille en plastique. Je n'aurais rien donné, moi. J'aurais acquitté complètement.
Toi, tu pars du principe qu'une bouteille d'eau lancée à 30 mètres, ça peut faire des dégâts.
Oui,
surtout qu'elle elle était pleine.
Oui, mais je pense pas que ça aurait fait grand mal. Il n'y a pas eu grand mal.
Moi, je suis du même avis. C'est qu'une bouteille d'eau, c'est pas une bouteille en verre. Donc, il n'y a pas de capsule, il n'y a rien qui peut blesser. Je pense que c'est pas trop dangereux, quoi.
Ça peut blesser, mais elle était pleine d'eau. Donc, coup d'opération avec la force d'inertie. Sur la tempe, une bouteille pleine.
Oui.
Ça fait
peut-être qu'il a simulé.
Ah non, non, on a bien vu les images, on l'a bien fait voir qu'il a reçu sur le côté, okay. Et la bouteille a éclaté en même temps.
Bon, il ne voulait pas le lancer sur la tête du...
Mais, oui, il faut dire aussi que le gars, il a bien visé, il ou a lancé un coup de peau.
Ouais.
Il n'a pas fait exprès, ouais.
Je ne vois pas pourquoi on s'émeut pour une bouteille d'eau. Je pense qu'il faudrait se souvenir de Furiani, des morts qu'il y a eu, et des Belges, avant. Je ne sais plus sur quel...
Et les Anglais bien,
nous. Et les Anglais bien avant nous, donc une bouteille d'eau. Sur tout ce qui se passe sur les stades dans le monde, au niveau du football, ça, non, ça me touche pas. Voilà.
Moi, je trouve c'est pas normal qu'un joueur, un supporter de l'OL, qui lance une bouteille sur... Un joueur de rugby de l'OM.
C'est du football, c'est pas du rugby. Hein.
L'OM, de foot. J'espère qu'il va te juger, il va te prendre une amende.
Alors, il me semble que cette bouteille a été... Pour quelle raison elle a été lancée? Parce que c'est un joueur de foot qui n'est là que pour taper dans un ballon. J'estime qu'aucune violence, enfin pour ma part en tout cas, n'est acceptable dans un stade, que ce soit envers le public, entre public et entre eux, et, ou envers les joueurs. Et il me semble qu'en plus, ça a été fait dans un contexte de racisme. Et que cette bouteille a été lancée parce qu'il était simplement noir. Et c'est là où, quand même, c'est un peu dérangeant pour ma part.
C'était pas pour fessoyer uniquement?
Moi, pour moi, c'est sûr, c'est un jaloux, c'est pas possible. C'est sûr. Il va être jaloux de l'argent.
Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, mais... Je veux dire, son métier, c'est de jouer, c'est pas de recevoir des bouteilles sur la tête. Voilà, mais... Voilà, c'est honteux.
Il me semble que le monsieur qui a fait ça a pris 6 mois de sursis.
Oui, c'est ça.
Oui, et puis 5 ans d'interdiction de stade.
Voilà, oui.
D'accord.
Enfin, moi, c'est par rapport au contexte où, en effet, il n'a pas été gravement blessé, il a eu une cicatrice. Malgré tout, se recevoir une bouteille à 30 mètres, c'est comme si vous receviez un poids de 3 kilos sur la tête. Hein. Enfin, il faut quand même remettre ça, donc c'est très lourd. Et puis, c'est quelle image on donne au sport? Le sport, c'est un moment de partage, d'échange. Il y a des enfants qui viennent, il y a des familles. Et est-ce que c'est ça le sport? Est-ce que le sport, c'est la violence? Pas pour moi, le sport, c'est le partage, l'échange, le plaisir de jouer et de voir un athlète qui va au plus loin de ses capacités.
D'accord avec vous, mais il y a une certaine excitation durant ces matchs.
Ça n'excuse donc, pas tout, l'excitation.
Il peut y avoir des dérapages.
Je voulais vous dire aussi, d'accord, la bouteille a été lancée. C'est comme les hooligans quand ils étaient dans les stades. Mais il faut se dire aussi que dans le rugby, il y a beaucoup de violence. Alors, où est le sport?
J'aurais une petite question là pour toi, Nicolas. Est-ce que cette violence qu'on trouve dans les stades maintenant, c'est un peu à l'image de ce que vous rencontrez, vous aussi, dans votre profession?
Alors, le souci, c'est que tous les gens sont excités. Il y a 48 heures, j'étais de garde de nuit. Ils se sont excités à nous renvoyer des fusées de détresse sur les engins. On est pris à partie et on a un gros, gros problème de violence envers les sapeurs-pompiers à tout niveau social.
Oui, c'est pas d'aujourd'hui.
C'est pas d'aujourd'hui.
Et ça empire.
Et ça empire. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de tolérance. On les relâche et nous, on laisse passer les choses. Donc, c'est un peu compliqué, ouais.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement contrecarrer un petit peu toutes ces agressions que vous subissez?
Ah, me les laisser une journée avec moi, ça va vite les calmer. Hein. J'ai une solution qui va faire des économies à l'administration pénitentiaire, ça c'est sûr. Il y a du taf à faire en caserne et j'ai du taf au musée s'il faut.
Voilà, le musée.
Très bien.
Et maintenant, un peu d'humour dans ce monde de brut, nous allons écouter les blagues de Guilain.
Préparez-vous pour une bonne barre de rire. Êtes-vous prêts?
Ouais!
2 anges font la causette. Quel temps fera-t-il demain? Nuageux. Ah, tant mieux, on pourra s'asseoir. Quel super-héros donne le plus vite l'heure? Spider-Man. C'est deux fous qui marchent dans la rue. Le premier demande au second. Je peux me mettre au milieu ? Deux mouches discutent sur un caca de chien. J'ai une de ces envies de péter, moi. Grosse dégueulasse, on est à table. Deux poules discutent. Comment vas-tu, ma cocotte ? Pas très bien, je crois que je couve quelque chose. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ? C'est caïman la même chose. Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ? Elle dit « C'est assez, j'ai le dos fin. » Et elle se cache à l'eau. Deux canards sont sur une rive, ils se regardent. L'un dit « Coin, coin. » L'autre dit « Ben merde, j'allais dire la même chose. » Un homme rentre dans un restaurant. « Garçon, servez-vous des nouilles ?»« Bien sûr, monsieur. Ici, on sert tout le monde. » Un chien rencontre un crocodile. Le crocodile dit au chien « Salut, sac à puce !» Le chien lui répond « Salut, sac à main !»
Ouais ! Moment d'humour, oui, Francis ? Oui, nous sommes de retour après ce moment d'humour dans les studios de Radio Entre-deux-Mers, en compagnie de Nicolas. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission sur toujours le musée. Alors, quelle est la pièce favorite du musée ? La pièce la plus rare et aussi la plus chère ?
Bon, tout est cher, hein. Ça dépend quelle est la personne qui nous l'a offert ou on l'a acheté. Là, moi, j'ai un casque de 1870, un masque d'appareil respiratoire anglais. C'est une de mes plus belles pièces. J'ai mes casques américains aussi qui sont très rares. Et puis après, il peut y avoir un jouet qui a été offert par un officier de 1926, qui est aussi une pièce sentimentale et qui a été mis à disposition au sein de la collection.
Jean-Louis.
Est-ce qu'au musée, on peut comprendre le fonctionnement d'une caserne de pompiers ? Et sinon, comptez-vous le faire ?
Alors, la deuxième question, on l'annule, parce que le but de rentrer dans le conservatoire, c'est de rentrer dans une caserne. Donc là, quand vous êtes au sein du musée, on rentre directement dans la caserne actuelle et dans les anciennes casernes. Donc, ça répond à votre question.
Aucine.
Est-ce que le matériel que vous proposez en état de marche ?
Oui, tous les camions sont en état de marche, même les pompes à bras sont en état de marche, et le but c'est de remettre aussi en état le matériel qu'on nous donne ou qu'on nous offre, et pour pouvoir le remettre en état de marche ultérieurement.
T'as combien de véhicules à l'heure actuelle ?
Alors à l'heure actuelle, j'ai un camion feu de forêt, un ACMAT, qui a été donné par les Landes. J'ai le brimont de l'ancien brimont de Cestas qui était entreposé à Capsieux. J'ai une échelle de 30 mètres qui attend d'être amenée au musée, mais qui dort à Castillon. Et j'ai un Berlier GLA de 1954 complet, et quelques motopompes.
Et je crois que tu as une pompe à bras aussi.
Et j'ai reçu donc deux pompes à bras de Bazas dernièrement, et on m'a prêté la pompe à bras brouette de Capsieux.
Alors j'ai une toute autre question. Enfin, si, c'est pareil. C'est combien avez-vous de casques ? Et si je veux en acheter, combien ça me coûtera si je veux acheter un beau casque de pompier ?
Alors, la collection, j'ai un peu plus de 500 casques.
Ah oui.
J'ai une des plus grosses collections de France, de toute façon, au niveau collection pompier. Et après, le prix d'un casque diffère. On peut avoir un casque à 10 euros, mais en général, un casque français. Nos casques qu'on a à l'heure actuelle coûtent 250 à 300 euros.
C'est trop pour moi. C'est gentil.
Vous achèterez un casque en pins.
Oui. Un casque miniature, oui.
Quelles sont les choses que vous souhaitez accomplir dans un futur proche ?
Alors, j'ai deux, trois petits travaux qui vont être faits dans l'année prochaine. On va refaire le but, c'est de refaire un garage de médecins avec la voiture de médecin. On voudrait aussi continuer à finir la partie 1950 avec faire une chambre pour pouvoir faire voir aux gens qu'il y avait la chambre au niveau du standard. Et ça sera. Et on finit la peinture extérieure où on refait une fresque complète au niveau des deux entrées de la manufacture.
Aussi.
Est-ce que Non. Comptez-vous à élargir le principe de musée dans le monde?
Alors, les musées au monde qui parlent des pompiers du monde, il y en a pas 50. Hein. Moi, je suis musée privé, donc je suis tout seul dans le monde avec cette superficie. Et il faut compter, dans le monde qui parle de la prévention comme je fais, une dizaine de musées dans le monde. Donc le but, c'est aussi de partager avec les autres musées internationaux et de récupérer des idées et de pouvoir continuer à évoluer dans la collection et dans le principe que les gens puissent rentrer dans le différent monde.
Une des dernières questions, avant, Francis va conclure après. Une dernière question, quels sont les objets qui manqueraient à votre collection? Et sinon, quels ceux que vous souhaiteriez acquérir?
On a toujours le problème du collectionneur, c'est voilà, c'est jamais fini, c'est une drogue, hein, mais c'est une bonne drogue. Mais bon, on a toujours des casques, on cherche voilà des vieux casques 1800, un véhicule particulier. Officiellement, j'ai su ça hier, l'échelle, la première échelle de Bordeaux va revenir à Bordeaux cette année. Elle date de 1922, elle était cachée aux pompiers de Paris. Ils ne savaient pas qu'ils possédaient l'échelle de Bordeaux. Et un peu grâce à moi, étant donné que j'ai fait des recherches avec des véhicules et des plaques d'immatriculation, ils avaient les bonnes immatriculations et bons numéros châssis moteur. Et donc, on a découvert que c'était l'échelle de Bordeaux. Et donc, cette année, pour les 100 ans, elle va revenir enfin à Bordeaux.
Et
donc,
à Langon, après?
Et peut-être à Langon. Il faudra qu'elle rentre.
Par contre, j'aurais une petite... Tu parlais tout à l'heure de New York. Et j'aimerais savoir quelle est la différence, au jour de maintenant, la différence en matériel par rapport aux États-Unis et la France. Est-ce que vous êtes aussi bien équipé qu'aux États-Unis ou est-ce que c'est l'inverse?
Alors, c'est toujours la même question, les mêmes réponses. Les États-Unis n'ont pas les mêmes structures architecture. Les bâtiments ne sont pas les mêmes. Les types d'attaques au niveau des incendies ne sont pas les mêmes. Les camions sont carrément différents parce que les rues sont énormes. Donc les camions, obligatoirement, sont énormes. On ne va pas aller dans Bordeaux, dans le vieux Sauveterre, avec un camion américain, ça n'en rentrera même pas. Et tout est démesuré. Et par rapport à ça, donc le matériel est démesuré par rapport à la configuration du pays. Mais après, voilà, la grosse différence avec la France, c'est surtout au niveau mentalité, où ils ont quand même cet amour des sapeurs-pompiers qui est quand même beaucoup plus important que dans les pays latins.
D'accord, très bien. Eh bien, messieurs, je vous laisse la conclusion.
Jean-Louis, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de cette émission?
Eh bien, je voulais demander à Nicolas ce qu'il pensait de l'émission.
Malheureusement, je vais dire bien.
Vous n'avez pas le choix.
Pas de choix. Je suis pris. Ils sont trois contre moi, donc ça a été un plaisir d'être reçu dans vos locaux.
Et bonne première ligne en face de vous, donc.
Ouais, oui, mais il me fait pas peur, ça va. Et puis passez de bonnes fêtes à vous aussi et merci.
Merci.
Et faites pas de 18.
Nous remercions d'avoir écouté et de nous dire au revoir à mon prochain.
À l'année prochaine surtout.
Une nouvelle mission.
Merci.
Et bonne fête à vous.
Bonne fête et joyeuse fête.
Bonne fête à vous.
Merci. Joyeux Noël.
Nous voilà. Voilà seulement. Nous voilà.
Voilà. Voilà seulement. Nous voilà. Pas seulement.